dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Le viager sur la table ce matin en distinguant différents cas de figure. La vente en viager occupé, la vente en viager libre, le montant de la rente, comment est-elle déterminée ? Une vente en viager entre parents et héritiers, est-ce que c'est possible ? Et bien d'autres points. Pour répondre à vos questions sur ce viager, Maître Sidonie Bagilé-Latapie, notaire, est en direct avec nous. Et pour lui parler, c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Bonjour Maître.
Et bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Creuse. Merci d'avoir galéré sur la route pour être quand même à l'heure.
Une heure et demie.
Une heure et demie.
Je remercie les camping-caristes.
Ça freine un petit peu, il paraît, dans les virages.
Non. Puis pas à gauche. Hein.
Le viager sur la table. Le viager, c'est avant tout une vente, j'ai envie de vous dire, que la même qu'une autre, qu'une vente normale, ou c'est vraiment différent ?
C'est une vente particulière.
Ouais. Mmh. Et à laquelle, visiblement, il faut bien s'interroger avant.
C'est clair.
On s'interroge avant de signer, on pose ses questions, 05 55 52 37 38. Alors déjà, peut-être, qui peut prétendre, côté vendeur, à un viager ? Est-ce que c'est possible à tout âge ? Oui, non ?
Disons qu'après, statistiquement, il faut le faire avant d'avoir dépassé son espérance de vie.
D'accord.
Puisqu'un viager est basé sur l'âge. Par principe, de l'âge dépend le bouquet, de l'âge dépend la rente et de l'âge dépend l'espérance de vie. Donc il y a un certain stade où, quand l'âge est trop avancé, ça devient compliqué.
Pourquoi ?
Puisqu'on est censé être
moins. Ouais, d'accord. Et il y a donc vraiment cette limite d'âge.
C'est ça. Un viager, par principe, est un contrat aléatoire. Mmh. Donc si j'achète un viager à quelqu'un qui a passé son espérance de vie, il n'y a plus d'aléas.
D'accord. L'état de santé est contrôlé, je suppose.
Oui. Enfin, après, ça va dépendre des médecins. Alors, certains comprennent, d'autres pas forcément. Effectivement, l'état de santé, quand on se rapproche de son espérance de vie, est un paramètre qui permet d'aller au-delà, à condition que le médecin veuille bien attester de la santé du vendeur.
Alors, avant d'entrer dans certains détails fort importants, d'ailleurs, pour vous, l'intérêt principal du viager, aussi bien côté acquéreur que vendeur, ce serait quoi ?
C'est de vendre et de s'assurer une rente, sa vie durant, tout en gardant la jouissance de son logement, ce qui est souvent le plus demandé, donc par rapport aux personnes qui n'ont pas d'héritier direct, on va dire, essentiellement.
Alors vous faites bien de le préciser, parce qu'effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Mmh. On peut avoir le viager dit libre, c'est-à-dire inoccupé, c'est ça ? Ou celui occupé.
Oui, enfin, le libre, on le pratique peu. Enfin, en tout cas, en province, il se pratique peu. C'est plutôt du viager occupé. C'est-à-dire qu'un vendeur, désirant garder sa maison, sa vie durant, et parallèlement, un complément de revenu, puisque la rente sert à ça, vend en viager avec un viager occupé.
Alors, ce viager occupé, il soulève beaucoup de questions parce que, alors certes, il y a une rente de versée, on verra tout à l'heure comment elle est déterminée, mais on le sait, une maison continue d'avoir besoin d'entretien,
L'entretien est à la charge de l'occupant.
De l'occupant ?
Ah oui. Après, ça va être essentiellement l'entretien, c'est ce qu'on appelle les menus réparations. Donc, menus réparations, c'est tout ce qui est entretien d'usage, comme un locataire. Le terme est un peu impropre, mais. Et l'acheteur, lui, aura à sa charge le clos et le couvert.
D'accord. Donc, si la toiture a besoin de refaire, c'est pour l'acheteur.
Les pignons et le toit.
05 55 52 37 38. Vos questions ce matin sur le viager, libre, occupé ou autre. Maître Sidonie Bagilé-Latapie, notaire, vous répond en direct.
Toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran
Consacré ce matin aux viagers, aux différentes formes de viagers pour répondre à vos questions. Maître Sidonie Bagilé Latapie, notaire, pour lui parler, c'est au 05 55 52 37 38. Bonjour Paulette.
Bonjour.
Bienvenue.
Oui, moi j'aurais voulu parler à Maître.
Eh bien, elle vous écoute.
Bonjour Maître.
Bonjour.
Voilà, nous, mon mari et moi, nous avons acheté une maison il y a 3 ans, donc nous sommes propriétaires, et on voudrait mettre notre maison en viager. Donc nous avons des enfants, chacun de notre côté, et on voudrait savoir comment ça se passe.
Alors, des enfants des deux côtés, propriétaires d'une maison, maître, qu'est-ce qu'on peut faire?
Dites-moi, Paulette, cette maison que vous voulez vendre en viager, vous voulez la vendre à un tiers, on est bien d'accord?
Oui.
Il ne s'agit pas de la vendre à vos enfants, ni d'un côté ni de l'autre.
Non, non.
Mais vous en faites ce que vous voulez de votre maison. Si vous voulez la vendre à viager, c'est votre droit le plus absolu. Vos enfants n'ont pas à interférer dedans. Elle est vendue.
Ah, mais c'est bien alors.
Par contre, c'est vrai que je ne vous cache pas que c'est mieux de leur en parler, de leur dire voilà, la maison, on l'a vendue et on l'a vendue en viager, machin, blabla. C'est mieux de le leur dire, si vous voulez, je dirais par honnêteté intellectuelle. Mais à partir du moment où votre acheteur n'est pas un de vos enfants et que la maison, vous la vendez et que vous la vendez au prix, bien sûr.
Oui.
À partir du moment où elle est vendue au prix en respectant les conditions d'un viager, vos enfants et beaux-enfants n'ont pas à interférer.
Ah oui, d'accord. Parce que je croyais, moi, qu'ils avaient leur mot à dire, quoi.
Elle est vendue, Paulette, la maison. C'est si vous la donniez que, par exemple, ils pourraient effectivement... Mais là, vous la vendez, sauf qu'au lieu de la vendre moyennant un prix qui vous est payé comptant, vous la vendez avec un prix qui est payé en plusieurs fois, mais c'est une vente.
C'est une vente.
C'est une vente. Dites-vous que vous la vendez, point. Si vous la vendiez, est-ce que vous iriez chercher l'accord de vos enfants et beaux-enfants?
Non.
Mais voilà, c'est une vente. Alors une vente particulière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui vous permet d'occuper le bien votre vie durant, qui vous permet tout un tas de choses, mais ça reste une vente.
D'accord.
Ça répond à votre question, Paulette.
Oui.
Bon.
Oui. Ben, je vous remercie beaucoup.
À votre écoute, à votre service, Paulette.
Allez, bonne journée.
Au revoir, Paulette.
Au revoir.
Bonne journée. Vous aussi, vous souhaitez poser votre question autour du viager, c'est au 05 55 52 37 38. Et là, maître, eh bien, Paulette nous tend la perche. Là, il y a des enfants, donc effectivement, ils ne vendent pas à l'un des enfants, c'est sans aucun souci. Mais si jamais ils avaient souhaité vendre à l'un de leurs enfants en viager, d'abord, est-ce que c'est possible?
Il faut trouver le notaire pour faire l'acte.
C'est vrai.
Une vente en viager à un enfant, c'est délicat. Alors, surtout quand on en a plusieurs, bien évidemment.
Ouais.
Puisque une vente en viager, l'administration considère que c'est une présomption de donation. Donc, c'est pas que c'est pas possible, c'est très délicat.
Les autres enfants, ils peuvent vraiment s'y opposer?
Oui. Alors, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est, mais à condition, bien sûr, que tout le monde soit d'accord, c'est faire intervenir la fratrie. À l'acte. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez papa et maman qui ont 3 enfants, un des enfants achète la maison en viager, les 2 autres intervenant à l'acte pour dire qu'ils le savent.
D'accord, mais comment ça se passera au moment du règlement de la succession?
C'est acheté. À partir du moment où...
Donc ça sort complètement.
Oui, c'est pour ça que, si vous voulez, il ne faut pas que le viager entre personnes d'une même famille dissimule une donation déguisée.
Et les notaires sont pas trop chauds pour faire ce genre d'acte.
C'est pas très emballé, non.
05 55 52 37 38 pour toutes vos questions sur le viager. Alors, vous avez évoqué ces deux mots très rapidement et moi aussi depuis 9 heures, le bouquet, la rente. Alors, le bouquet, qu'est-ce que c'est? Comment c'est déterminé? Et la même chose pour la rente?
Eh bien, on va partir d'un prix, peu importe, exemple 100. Donc, on a un bien qui fait l'objet d'une estimation par quelqu'un dont c'est le métier, bien sûr. Hein. Et ce bien a un taux de rentabilité. C'est-à-dire, si je le loue, combien est-ce que je vais le louer?
D'accord.
Donc, le taux de rentabilité fixe la rente. Si un bien a une rentabilité de 2%, vous comprenez bien que la rente est beaucoup moins élevée que si un bien a un taux de rentabilité de 6%. Là, le taux de rentabilité, c'est la valeur locative. Donc, j'ai une propriété avec bâtiment d'habitation, bâtiment d'exploitation et par exemple 80 hectares de terre. Donc, on détermine la valeur locative du bien, ça fixe le taux de rentabilité et une fois donc qu'on a la valeur de la rente, à l'envers, ça fait le bouquet.
Qui est-ce qui peut vraiment estimer un notaire, la valeur des biens?
La valeur des biens, ouais. Oui, par toute personne qualifiée, agence immobilière, notaire qui fait de la négo, un expert auprès des tribunaux, toute personne qualifiée, parce qu'effectivement, l'évaluation est quand même l'enjeu en matière de viager. Donc je déconseille l'évaluation sur un coin de table entre le fromage et le dessert. Quoi. Ça ne marche pas, ça.
D'accord, entre la poire et le fromage.
Voilà.
Donc, le bouquet est versé au départ.
Voilà, le bouquet est versé. Donc, dans mon exemple de 100, par exemple, le bouquet sera de 40 et le reste constitue la rente en fonction du taux de rentabilité du bien.
En sachant qu'un viager, finalement, on ne sait pas pour combien de temps
et
on s'engage.
Voilà, c'est ça. Donc, en fonction de l'espérance de vie, on peut faire des statistiques. C'est-à-dire qu'il y a un seuil, effectivement, en dessous duquel c'est rentable pour l'acheteur et un seuil au-dessus duquel c'est rentable pour le vendeur. Mmh. Voilà.
C'est pas évident
c'est
quand même.
C'est le film de Claude Sirou.
Hein, complètement. Nous parlons souvent de vente de maisons en viager, mais il n'y a pas que les maisons qui peuvent être...
Tout se vend en viager.
Tout peut se vendre.
Oui, tout. Des terrains, des bâtiments d'habitation, des bâtiments d'exploitation, tout.
Le viager occupé, le viager libre et autres, vos questions à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Oublier ses galères dans une milonga centenaire, elle fait résonner ses pas et tourner sa robe légère. Elena, un peu trop de noir aux paupières pour être tout sauf ordinaire et pour que tout le monde la voie. Elle pensait que pour plaire, elle avait besoin de ça. J'ai eu peur de me brûler, comme tant d'autres avant moi. C'est une incandescente née, Elena. Mais ça fait trop longtemps déjà que je reviens la voir danser tous les premiers samedis du mois. Je ferais bien de me lever, pourtant je reste planté là.
Elena, Vincent Niclot.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Le dossier du jour avec notre invité du jour, Maître Sidonie Bagilé-Latapy, notaire. Il est plus particulièrement question ce matin du viager. Comment fonctionne un viager? Ce qui est possible de faire de part et d'autre? Et toujours France Bleu Creuse qui vous accueille pour vos questions au 05 55 52 37 38. Et finalement, maître, alors imaginons un viager et que finalement l'acheteur décède avant. Mais ça peut arriver, la vie, on ne sait jamais de quoi elle est faite.
Effectivement.
Parce que le côté spéculation, peut-être pas sur un viager, mais quand même.
Qu'est-ce qu'elle est vénale.
Mais non,
c'est
mais
un bout d'auvergne ici.
Rien à voir.
Le viager.
Alors, qu'est-ce qui se passe si
s'il y a décès.
S'il y a décès
de l'acheteur.
Pas prévu.
C'est souvent comme ça. S'il y a décès de l'acheteur, effectivement, la rente est à la charge de ses ayants droit.
Ah. Ça peut pas être.
En général, c'est transmissible.
Ouais.
Puisque le viager ne s'arrête que quand le vendeur décède. Mmh. Donc je rappelle quand même le confrère qui a eu le bon goût d'acheter en viager à Jean de Calment,
voilà,
qui est donc décédé bien avant elle.
Et oui,
par exemple. Donc le bouquet par principe, la rente par principe est transmissible. Alors après, effectivement, conventionnellement, on peut envisager d'y déroger. Ça va certainement dépendre des circonstances du décès de l'acquéreur et puis également des possibilités de ses ayants droit. Mais sur le principe, c'est transmissible.
Je pensais qu'il y avait peut-être des possibilités d'annulation.
Et comment on fait?
Avec indemnisation.
Et voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que le principe, c'est celui de la transmission. Après, conventionnellement, effectivement, on peut y déroger. Mais ça va être très délicat de prévoir les causes du décès de l'acquéreur, dans quelles circonstances ses ayants droit seront ou non solvables. Ça commence à devenir un peu divinatoire. Le bon goût est que le vendeur meure le premier aussi, et puis voilà, ça règle le problème.
Ouais.
Oui, voilà.
C'est pas. La vie, des fois, elle en décide autrement.
C'est ça. Mais par principe, c'est transmissible aux ayants droit.
Et donc, par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure à Paulette, des enfants ne peuvent pas s'opposer à la décision de leurs parents de vendre leur bien.
C'est une vente. Alors, effectivement, une vente particulière, mais c'est une vente. Ce qui serait délicat, ça serait qu'ils vendent à un de leurs enfants, mais partant du moment où c'est vendu à un tiers, Paulette et son mari ont une équivalence en prix de vente. Donc, les enfants ne sont pas dépossédés. Au lieu d'avoir une maison à tel endroit, et les parents le convertissent en prix et en rente.
Ce viager, au départ, donc, on a bien compris que c'était sur l'espérance de vie.
C'est ça.
Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de date de fin de porter sur ce viager. La rente peut être payée pendant des dizaines d'années.
La rente est versée jusqu'au décès du vendeur. C'est un contrat aléatoire, donc c'est le décès du vendeur qui met un terme qui met un terme à la rente.
Le viager, pour vous, la principale précaution à prendre, aussi bien d'un côté que de l'autre, avant de se lancer quand même, avant de signer. Hormis, on a bien compris l'état de santé, l'espérance de vie.
Mais c'est vrai que nous, ici, on ne rencontre pas trop le viager spéculatif. C'est-à-dire celui dont vous parliez à demi-mot sans oser le nommer.
J'avais perdu le mot.
Ouais, on ne pratique pas trop le viager spéculatif. Donc effectivement, après les garanties à prendre, il n'y en a pas particulièrement. Il faut juste que le vendeur et l'acheteur soient d'accord sur la chose et sur le prix et sur les modalités de paiement.
Mmh. Et c'est tout.
Après, un acheteur, il achète en connaissance de cause, l'éventualité qu'il meure le premier, l'éventualité que la rente indexée, il ne puisse plus la régler. C'est une vente avec un prix particulier, c'est tout.
Et alors, effectivement, si en revanche, hormis un décès, si l'acheteur, à un moment donné, ne peut plus payer cette rente pour des raisons X ou Y, qu'est-ce qui se passe?
Il faut conventionnellement trouver une autre solution, parce que le problème du viager, c'est qu'il y a un bouquet qui est versé, et puis ensuite, donc, il y a une rente. Donc, s'il y a résolution du contrat, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on fait de ce qui a été payé. Mmh. C'est toujours un peu le problème.
Ouais.
C'est-à-dire que l'acquéreur qui aujourd'hui ne peut plus payer voudra certainement demander la restitution de ce qu'il a versé. Le vendeur, lui, ne voudra pas. Et je pense qu'effectivement, on peut partir dans des problèmes qui vont rapidement déraper, quoi.
Oui, donc là aussi, il faut être bien sûr de pouvoir tenir la route.
C'est ça. Mais en fait, imaginez quand vous achetez en viager, quand vous empruntez à votre banque pour 20 ans, il faut bien payer votre banque pendant 20 ans. Mmh. Alors effectivement, un prêt bancaire ou une vente à terme a le principe du terme, c'est-à-dire qu'on connaît l'échéance d'arrêt du paiement, le viager, la règle elle est claire, c'est la rente est versée d'autant que le vendeur est en vie. Donc il y aura peut-être un moment où vous espérerez l'amour de votre vendeur, mais l'espérer, ça ne veut pas dire être exaucé.
Se viager, l'intérêt premier, c'est souvent d'améliorer une retraite trop petite, non
c'est
par exemple,
une retraite.
Ou être sans héritier.
Voilà, être sans héritier, et puis pour un acheteur, de rendre un peu moins douloureux financièrement l'achat d'un bien, notamment dans des régions à forte pression foncière. Ouais. Nous, on ne le connaît pas, ça. Mais il y a des départements où les biens immobiliers sont difficiles à acheter. Donc, d'acheter en viager, ça permet à un vendeur d'avoir un complément de revenu et à un acheteur d'accéder à la propriété alors que peut-être il n'aurait pas pu.
Alors, tout à l'heure, nous avons parlé du cas où, effectivement, lors d'un viager occupé, où la personne qui restait dans les lieux avait le menu entretien, l'acheteur le plus gros.
Oui, c'est ça.
Qu'en est-il côté impôts et autres ?
Tous les impôts sont à la charge de l'occupant. C'est
tous
normal.
Tous les impôts.
Mais le vendeur, si vous voulez, ayant la jouissance du bien, il a les impôts à sa charge. C'est normal.
Ouais. Oui et non ?
Il utilise privativement le bien, donc c'est bien normal qu'il supporte la charge. De...
Ça pourrait ressembler plus à une location dans ce cas-là.
Oui, mais en l'occurrence, non.
Elle ne veut pas en démordre.
Non.
Le viager, la rente viagère, le viager libre, le viager occupé, vous avez des questions. Vous n'hésitez pas, vous souhaitiez ajouter, maître ?
Oui, après, conventionnellement, on peut répartir entre le vendeur et l'acheteur, le foncier et l'habitation. C'est ça que vous voulez dire ?
Chacun sa part.
Ça peut se prévoir. Ça peut se prévoir.
Ah, quand même, on va y arriver. Vous en faites beaucoup de contrats de viager comme ça, de vente en viager ?
Quelques-unes. Après, beaucoup, non. C'est pas un contrat. C'est un contrat qui existe, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est un contrat, comme je disais tout à l'heure, sur lequel on est assez réticent.
Mais c'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est encadré par la loi quand même.
Mais c'est encadré par la loi, mais il y a une part d'aléa, si vous voulez, qui est par essence, qui est l'essence même du contrat, part d'aléa que nous on ne maîtrise pas, mais quand il y a un problème, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours au notaire qu'on s'adresse. Quoi.
Parce qu'il est un peu en première ligne.
Ouais, voilà, c'est ça.
Comme vous l'êtes à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié ? France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Mirande, dans le Gers, avec un éleveur de porc d'exception, les Cunoirs. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit discret, efficace et payé le moins cher possible. Avec Chin Chin Connect et pour 1 € de plus, votre équipement auditif est relié directement à votre téléphone.
Chin Chin Connect d'Afflelou, c'est jusqu'au 30 juin sur les modèles de la gamme Incognito. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à notre audioprothésiste, voir les conditions en magasin.
Un jour, le cœur de mamie a commencé à beaucoup l'embêter. Il l'empêchait de bien respirer pendant la nuit. Il le faisait gonfler ses pieds et elle ne pouvait même plus mettre ses chaussures. Alors, elle a parlé avec son docteur et maintenant, son cœur est bien plus sage. Et moi, je suis bien contente parce que...
Tu parles toute seule, ma chérie.
Viens, on va faire des crêpes.
Parce que j'adore les crêpes de mamie.
Insuffisance cardiaque. Remettez votre vie en mouvement. Des solutions existent. Parlez de vos symptômes à votre médecin. Plus d'informations sur suitoncoeur.fr, un site de Novartis.
C'est quoi, Bertrand ? Entre midi et deux, j'ai sauvé 3 vies.
3 vies sauvées? Mais t'as passé un diplôme super express de secouriste sans rien me dire? T'as d'autres trucs à me cacher, ma chérie?
T'es bête. J'ai donné mon sang depuis le temps que je voulais le faire et ça m'a pris qu'une heure.
Madame a trouvé 1 heure dans son emploi du temps, mais je dis bravo!
Non, mais tu t'arrêtes jamais, toi. Et vous, que faites-vous en 1 heure? Comme moi, n'hésitez pas. Prenez 1 heure pour donner votre sang. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Toutes les infos sur le site de l'Établissement français du sang.
France Bleu Creuse.
France Bleu.
J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner.
Ta mélancolie en ces dimanches passés affalés.
J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère.
coupable quand t'étais détestable de rester agréable et j'étais sûr que j'étais doux et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile, grâce à toi j'ai compris le sens du mot touride et juste pour ça. Oh my sweet darling.
Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Le viager en question ce matin avec Maître Sidonie Bagilé-Latapie, notaire, qui bien sûr échange avec vous en direct au 05 55 52 37 38. Mais on sent bien, Maître, hein, que le sujet, on n'ose peut-être pas trop l'aborder à voix haute. Hein, finalement, ça reste discret.
C'est des questions délicates, tout
ouais,
à fait.
Tout à fait. Qu'appelons-nous le viager occupé sans rente, Maître?
Cash.
Chic, on ne le paye pas.
Si, cash.
C'est-à-dire?
Bien, en fait, l'entier prix est versé par le bouquet, donc il n'y a pas de rente. Donc si j'ai un bien estimé à 100 000 euros, par exemple, on calcule la jouissance réservée par le vendeur, exemple 20 000, donc ça veut dire que si j'achète donc avec un viager comptant, je paye cash 80 et puis je suis débarrassé de la rente.
D'accord. C'est un bon plan, ça ?
Oui, il faut juste avoir les sous.
Oui, il faut remarquer quand on achète classiquement une maison aussi.
Voilà, l'avantage du viager, si vous voulez, classique, c'est que le bouquet est toujours moins élevé que le comptant d'un viager sans rente.
D'accord.
Donc ça permet, ce que j'ai dit tout à l'heure, des fois d'accéder à la propriété à des personnes qui ne pourraient pas avoir d'emprunt ou dans des endroits où le marché de l'immobilier est beaucoup plus cher que ce qu'on peut connaître ici, etc. etc.
Pour vous, le plus gros piège peut-être à éviter, ce à quoi, aussi bien d'un côté que de l'autre hein, d'ailleurs, il faut faire particulièrement attention.
À l'administration fiscale.
Vous les aimez beaucoup, Maître.
Ah ben oui, je les aime bien. Si vous voulez, c'est le genre d'actes qui sont soumis à contrôle, ce qui est normal. Hein, donc, il faut que le viager soit réel, sincère et véritable.
Mais pourquoi il ne le serait pas ?
Ben, parce que vous pouvez avoir un acheteur qui pourrait être tenté, une fois qu'il a versé le bouquet, de ne pas verser de rente, par exemple.
D'accord.
Voilà.
Bah oui, mais à partir du moment où, de toute façon, il y a un acte notarié pour un viager.
Mais une fois qu'on a payé le bouquet par la comptabilité, donc je reprends un exemple, un bien qui vaut 100... le bouquet de 40, donc une fois qu'on a payé par la comptabilité les 40 de bouquet, la rente après se règle directement entre les parties sans notre intervention, la vie du rente du vendeur, donc on ne maîtrise plus rien. Nous ce qu'on maîtrise, si vous voulez, c'est la part de payer comptant. Après tout ce qui n'est pas payé comptant, mais si je peux me permettre qui est payé à terme, le terme est un peu impropre, mais tout ce qui n'est pas payé à terme ne passe pas par la comptabilité de l'étude. Donc la tentation pour les parties, ça va être de ne pas se payer la rente les uns aux autres. Alors soit un acheteur qui ne voudra pas payer la rente, soit un vendeur qui ne la voudra pas, et bien évidemment c'est une très mauvaise idée. Hein.
Mais en cas de non-paiement de la rente, le vendeur a des moyens quand même.
Le vendeur peut très bien ne pas vouloir de la rente.
pourquoi ?
Mais parce qu'il n'en a pas besoin ou parce qu'il veut faire plaisir. Il y a toute une série de raisons. Vous voyez ça comme un complément de revenu ?
Ah, complètement, oui.
Mais effectivement, ça suppose un vendeur qui en ait, entre guillemets, besoin. Si vous avez un vendeur qui n'en veut pas et qui fait ce genre d'opération juste pour faire plaisir à son acquéreur et éventuellement, certainement, ami, ça s'appelle une donation déguisée.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça n'a plus rien à voir avec
le. C'est bien pour ça qu'on est réticent à ce type d'acte.
D'accord.
C'est bien pour ça qu'on est réticent. Puisque une fois qu'on a payé l'échéance du bouquet, si vous voulez le paiement de la rente, on ne le maîtrise plus ou on ne le maîtrise pas.
Et donc là, il n'y a pas plus de contrôle que ça.
Eh bien, l'administration fiscale.
Voilà,
moi, je suis d'accord avec vous qu'un acheteur doit payer sa rente, bien sûr, mais une fois qu'ils auront fermé la porte, moi, après, je ne suis pas chez eux pour savoir si elle est effectivement payée ou pas.
Oui, mais la rente viagère, il vaut mieux faire attention.
La rente viagère, l'administration veille, ce qui est tout à fait normal, dans le sens où c'est présumé. C'est une présomption de donation déguisée. Donc il faut que l'acheteur et le vendeur soient bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire une donation déguisée. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on est réticent à recevoir ce type d'acte.
D'accord, parce que vous avez peur, effectivement,
et voilà,
que ce soit...
Un vendeur, un acheteur vont vous dire oui, mais quand ils ont passé la porte, après, on ne sait pas.
D'accord, je pensais quand même que...
Non, on n'a aucun moyen de contrôle.
Que le fait de payer ou non cette rente était contrôlé plus...
Pas par nous.
D'accord.
Nous, on ne fait que la partie qui est payée comptant, donc le bouquet, en fait. Le reste, c'est entre eux. Donc effectivement, dans le contrat, il y a marqué que chacun s'y engage et que chacun s'y oblige. Ne vous tracassez pas, on leur dit bien qu'ils y sont obligés, vous inquiétez pas. Hein. Mais après, dans les faits, on n'est pas là. Hein.
D'accord. Oui, ça doit... Mais cette rente, le montant de la rente, c'est porté dans l'acte
notarié. Oui, tout à fait.
Donc s'il y a un souci d'un côté ou d'un autre, en revanche, s'il y a non-paiement de cette rente, le vendeur peut quand même retrouver des éléments et prouver qu'il n'a pas été réglé.
Moi, je demande à l'acheteur de faire un virement, et puis voilà, le 5 ou le 10 du mois, peu importe, par virement, obligatoirement, sur le compte du vendeur. Mais après, voilà, je suis pas... Quand ça dure 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne reste pas derrière pendant 20 ans pour regarder si effectivement tous les mois...
Ah bon ?
Non, il n'y a pas de service après-vente.
Ce viager, maître, pour vous, donc on sent bien que vous êtes réticente. Uniquement si on est tout seul dans la vie, si on veut faciliter les choses.
Oui, voilà, c'est ça.
Prévoir l'avenir différemment.
C'est ça va dépendre de l'objectif qu'on a par rapport à ce viager. Si son objectif, c'est d'organiser sa succession, ce qui est le cas à 99% du temps, effectivement, c'est louable. Après, il ne faut pas s'en servir et détourner le contrat pour faire une donation déguisée. Organiser sa succession, si vous voulez, c'est le lot de tout un chacun. Par contre, il ne faut pas se servir d'une vente en viager pour faire une donation déguisée. C'est non.
Ben, ça mérite d'être clair. Voilà. Il vous reste juste quelques instants maintenant, si vous souhaitez intervenir, 05 55 52 37 38. Et là, j'étais en train de penser au cas des personnes en dehors d'une maison qui ont également des terrains agricoles, souvent en fermage. Là aussi, est-ce qu'il est possible déjà d'envisager un viager avec celui qui a cette propriété agricole en fermage?
Oui,
ou pas?
Là, le viager, c'est une jouissance, donc c'est ni plus ni moins que de continuer à encaisser le fermage à vie durant.
Donc là, aucun souci finalement.
On peut vendre en viager à son locataire, ça pose pas de problème, du moment que le contrat est sincère et véritable.
Ouais, ça y tient.
Ouais, on tourne en rond.
Ça sent le vécu, je sais pas
non,
pourquoi,
non,
mais...
Non, mais si vous voulez, c'est le genre de contrat, tout ce qui a un délai dans l'exécution, si vous voulez, pour une raison que je m'explique pas, quand il y a un problème, c'est toujours chez le notaire que ça arrive, alors qu'en fait, le problème n'est jamais là, le problème, il est entre les parties. Donc, je pars pas du principe que sur une vente en viager, un vendeur ou un acheteur vont venir détourner le contrat, mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir.
Oui, c'est clair. Non, mais on n'a pas dit que c'était de la faute du notaire s'il y avait un souci sur ses contrats.
Mais c'est vrai que l'exécution a posteriori est quelque chose de délicat. Donc s'il y a mésentente, s'il y a des accords, ça peut rapidement déraper sur un viager.
Oui, mais après, il y a des moyens de par exemple de se défendre.
Oui,
c'est la justice,
voilà,
tout
c'est
à
ça.
Fait.
C'est ça. Le problème, c'est qu'après, c'est l'exécution judiciaire, donc c'est beaucoup moins drôle, quoi.
En résumé, sur ce viager, maître, j'ai l'impression qu'elle va nous dire, mais si vous pouvez éviter, évitez.
Non, j'espère longue vie à tous les vendeurs en viager.
Et une excellente santé. Et faites vérifier cette santé. De toute façon, effectivement, le médecin, au départ, a son mot à dire.
Mais disons qu'après le médecin, on lui demande une intervention quand le vendeur commence à se rapprocher de son espérance de vie, voire la dépasser. Après, je comprends que les médecins ne veulent pas s'engager sur ça, mais c'est un serpent qui se mord la queue, quoi, puisque le notaire attend, le médecin attend et tout le monde s'attend, quoi. Donc.
Et Céline ne va pas attendre plus longtemps. Bonjour Céline.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voudrais savoir si le bouquet et la rente sont considérés comme revenus et à déclarer aux impôts.
La rente, oui.
La rente, mais pas les...
C'est un prix.
Pas le bouquet.
Voilà, la rente.
La rente, d'accord.
Oui, normalement, vous avez une rubrique. Il faut regarder vers la fin du CRFA, mais vous avez une rubrique, effectivement. Le bouquet, ça constitue en fait une fraction du prix. Le terme est un peu impropre, mais c'est une fraction du prix. Donc le prix, si vous voulez, la partie de prix payée, l'étant par la comptabilité du notaire, si vous voulez, la déclaration se fait à l'acte.
D'accord.
Et la rente, elle, par contre, comme on disait, elle est versée après l'acte, d'accord, directement entre le vendeur et l'acheteur. Si vous me permettez, c'est un peu impropre, un peu comme une pension alimentaire, d'accord, donc ou une prestation compensatoire. Donc, effectivement, elle est à déclarer.
D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup.
Bonne journée, Céline.
Bonne journée, au revoir, merci.
Maître, en guise de mot de la fin sur ce viager aujourd'hui, rappelez-nous, allez pour le plaisir.
Longue vie au vendeur.
Voilà. Maître, merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain.
Au revoir.
France Bleu Creuse. France Bleu Creuse. Le dossier du jour, Josiane Perron.
Demain dès 9h, remplacez votre chaudière fuel pour 1 euro. Est-ce que c'est vraiment possible? Trop polluant, coûteux, le fuel domestique est vraiment dans le collimateur du gouvernement. Mais nous allons prendre le temps demain matin de détailler ce fameux coût d'un euro. Parce que c'est pas aussi simple que ça. François Martin, président UFC Que Choisir Creuse, répondra à toutes vos questions demain matin.